passe pas genoux.
Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez
le cœur de vos fidèles et animez en eux le feu de votre
amour. Votre Esprit, Seigneur, se fera une grâce nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions. Ô Dieu qui avait donné et envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Ignace de Loyola, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je m'excuse, je vous fais faire des heures supplémentaires, là, en plus des cours déjà du jeudi. Mais j'ai toujours fait ça. Depuis très longtemps. J'ai toujours eu l'habitude de donner une petite mission de paroisse aux fidèles. Les lundis saints, mardis saints, mercredis saints, comme ça se faisait avant. Ça se faisait avant pratiquement toutes les paroisses. Alors, d'abord, je demande un petit peu. J'ai arrêté mon égard, j'ai pas eu le temps de passer suffisamment de temps sur ces préparations de cours. J'aurais voulu passer plus de temps, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Ce que je voudrais faire, c'est parler un petit peu des textes de la Passion à partir des Pères de l'Église. Vous savez que. Pendant toute la semaine sainte, pendant tout le carême, donc tous les jours il y a une messe propre. Et dans le bréviaire du prêtre, c'est-à-dire dans la prière officielle de l'Église pour le prêtre, appelée le bréviaire, il y a des leçons qui expliquent l'évangile du jour. Donc ces leçons sont toujours des leçons tirées des pères de l'Église et qui sont exactement, donc qui donnent exactement l'esprit de l'Église concernant le carême. Donc j'ai utilisé ces leçons pour le temps du carême, je n'aurai pas le temps de tout expliquer parce qu'il y a beaucoup trop de choses, mais ça vous donnera déjà un petit peu une idée. Et pour comprendre l'esprit du carême, il faut chercher dans deux sources à mon avis importantes. La première source, c'est d'aller chercher les textes liturgiques, directement les textes de l'Écriture sainte, ou les textes qui sont employés par l'Église, par exemple, surtout pour le Vendredi Saint, notamment les impropères. Deuxième source, les pères de l'Église. Celui qui a les pères de l'Église, il a évidemment la source même auquel se sont abreuvés des milliers de catholiques pendant des siècles et des siècles. Alors voilà, si on veut avoir la clé qui, je crois, donne l'interprétation du temps du carême, du temps de la semaine sainte plutôt, n'oubliez pas que les pères disent que bon Dieu donne plus de grâce pendant la semaine sainte, pendant toute l'année liturgique. Et je crois que le texte qui donne exactement l'esprit qui doit être le nôtre pendant la semaine sainte, c'est un texte du prophète Jérémie, donc qui est donné au dimanche des Rameaux, au début de semaine sainte. Et donc l'Église nous donne déjà l'axe sur lequel nous allons devoir méditer. Voilà ce que dit le prophète Jérémie. « Mon peuple a fait deux maux. Ils m'ont abandonné, moi, source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes entrouvertes qui ne peuvent pas retenir les eaux. » Et ensuite, c'est un peu plus expliqué. Dès les temps anciens, tu as brisé mon joug, tu as rompu mes liens et tu as dit, je ne servirai pas. Pour moi, je t'avais choisi, je t'avais planté comme une vigne choisie, comme un plant franc. Comment donc es-tu devenu pour moi un plant bâtard aux vignes étrangères ? Est-ce qu'une vierge oubliera sa parure ou une épouse la bandelette qu'elle porte sur sa poitrine ? Mais mon peuple m'a oublié pendant des jours innombrables. Donc qu'est-ce que nous reproche le bon Dieu ? Le bon Dieu va justement nous reprocher de l'avoir complètement oublié. Oui. Alors attention, donc il y a plusieurs erreurs qu'il faut, à mon avis, éviter lorsqu'on touche à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La première erreur, c'est des erreurs qu'on rencontre très souvent. La première erreur, à mon avis, qu'il faut soigneusement éviter, c'est de méditer la passion quand les protestants le font. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on considère que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous il y a 2000 ans, maintenant c'est terminé, c'est fini au ciel, donc c'est la fin de la méditation. Donc on considère que la passion c'est quelque chose de purement passif, c'est fini, c'est terminé, notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, au passage on le remercie, quand même il a fait une bonne chose de porter la croix, il nous a rouvert les portes du ciel, mais on n'en parle plus, c'est fini, c'est terminé, maintenant il est au ciel, il n'y a plus besoin de méditer la passion. Deuxième erreur qu'on rencontre aussi très souvent, c'est les gens qui, ça c'est très fréquent dans les milieux de tradition, c'est les gens qui considèrent que la passion, est simplement la faute des Juifs. Alors, il est vrai, d'ailleurs c'est le texte qu'on trouve directement dans le récit évangélique, les Juifs ont bien dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc on ne peut pas nier le fait que le peuple juif de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement coupable d'un déicide, ça c'est sûr et certain. Cependant, rappelez-vous la parole de notre Seigneur sur la croix. Hein? Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À mon avis, la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit ça à propos des Juifs, pardonnez-leur, parle à son Père parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ pourrait dire la même chose sur nous? On a trop tendance à oublier ces choses-là. C'est-à-dire que prenez deux péchés mortels. Excusez d'insister, mais c'est important. Deux péchés mortels, un commis par un Juif qui ne connaît pas notre Seigneur, et un commis par un catholique de la tradition qui connaît parfaitement ce qu'il sait, parfaitement ce qu'il fait, qui connaît sa foi, qui connaît son catéchisme, qui connaît ses commandements. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est sûr, c'est le deuxième. Et donc, à mon avis, c'est deux erreurs à éviter. Première erreur, méditer comme les protestants le font, ça c'est le modernisme, il n'y a pas beaucoup de risques comme ça parmi nous. Par contre, deuxième erreur, considérer que c'est les autres. Hein? C'est comme les gens qui me disent, les modernistes, c'est les autres, moi je suis bien. En gros, Dieu a créé ma personne et ensuite le reste du monde. Bon, c'est un peu de l'orgueil, c'est beaucoup de l'orgueil. Il faut faire attention à ces choses-là. Okay? Et le père Saint-Curé d'Ars avait une expression très simple. Il expliquait comme ça aux enfants. Il disait, chaque fois que vous commettez une faute grave, vous recrucifiez notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de votre cœur. C'est tout à fait ça. Donc, ne pas considérer la passion comme simplement quelque chose de passé. Alors, on peut reprendre, pour nous aider à comprendre ces choses toutes simples, je vous conseille beaucoup de faire ça, même pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. Au moins, prenez le temps, avant les grands offices du Jeudi Saint, du Vendredi Saint, de Gilles Pascal, de relire les textes en français chez vous. Hein. C'est des textes assez compliqués, c'est des liturgies très compliquées même, très anciennes, extrêmement belles, mais très riches. Elle est tellement riche qu'il faut la préparer. Donc je vous conseille beaucoup de lire un peu ces textes avant de les suivre le jour du Jeudi Saint, le Vendredi Saint. Voilà ce qu'on trouve au Vendredi Saint. C'est encore, à mon avis, c'est là que se trouvent toutes les clés pour comprendre la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors attention, notre Seigneur Jésus-Christ, là encore, ne s'adresse pas simplement à son peuple du passé, c'est-à-dire au peuple juif. Le bon Dieu s'adresse à ceux qui ont pris la place du peuple juif, à savoir les catholiques. Et voilà ce qu'il leur dit. Que t'ai-je fait, ô mon peuple? En quoi t'ai-je attristé? Dis-le-moi. Parce que je t'ai tiré de la terre d'Égypte, tu as dressé une croix à ton sauveur. Est-ce que parce que durant 40 ans j'étais ton guide dans le désert, que je t'ai nourri de la manne, que je t'ai introduit dans une terre excellente, que tu as dressé une croix à ton sauveur? Qu'ai-je donc dû faire pour toi que je n'ai point fait? Tu étais une vigne magnifique que j'ai plantée et tu as été pour moi remplie d'amertume. Car dans ma soif, tu m'as donné du vinaigre et tu as percé avec une lance le côté de ton sauveur. J'ai frappé l'Égypte avec ses premiers-nés et pour l'amour de toi, et tu m'as livré pour être flagellé. Je t'ai retiré de l'Égypte en submergeant Pharaon dans la mer Rouge et tu m'as livré au prince des prêtres. Je t'ai ouvert un passage dans la mer et tu m'as ouvert le côté avec une lance. Je t'ai conduit dans ton voyage en faisant marcher devant toi une colonne de nuée et tu m'as conduit au prétoire de Pilate. Je t'ai nourri de manne dans le désert et tu m'as donné des soufflets et des coups de fouet. Je t'ai désaltéré avec l'eau salutaire de la pierre et tu m'as abreuvé de fiel et de vinaigre. J'ai frappé les rois des Cananéens pour l'amour de toi et tu m'as frappé la tête avec un roseau. Je t'ai donné un sceptre royal et tu as mis une couronne d'épines sur ma tête. Je t'ai élevé en l'honneur et en gloire, en honneur et en gloire et tu m'as attaché au gibet de la croix. Que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je attristé? Parce que je t'ai dressé de la terre d'Égypte, tiré de la terre d'Égypte, tu as dressé une croix à ton sauveur. Et donc il faut, c'est un peu comme une litanie. Et cette litanie, il faut la rendre personnelle, il faut la personnaliser. Ce qu'il faut faire, c'est continuer la litanie. Donc vous reprenez un peu, pour chacun pour vous, c'est un petit peu ce qu'il faut faire, à mon avis, pour la semaine sainte, vous reprenez toutes les grâces reçues. N'oubliez pas que les catholiques de tradition, qui ont un peu compris ce qui se passe dans l'Église actuelle, c'est pas le fruit de votre mérite. Voilà pour moi aussi tout ce que je vous dis. Si c'est aussi bon pour moi. Hein. Si j'ai pu conserver la foi, si je suis prêtre catholique dans la tradition, c'est par la grâce du bon Dieu, c'est tout. Pareil pour vous. Mais n'oubliez pas que plus de grâce on a reçue, plus notre réponse à la grâce doit être importante. Et donc il faut faire extrêmement attention à ça. Jamais oublier que le bon Dieu demandera beaucoup plus à ceux qui ont plus reçu. Donc, c'est la conclusion aussi de tout ce que dit notre Seigneur, c'est qu'un péché commis par un ami de notre Seigneur Jésus-Christ le fait beaucoup plus souffrir que des péchés commis contre lui par ses ennemis. Et donc, vous reprenez un peu les grâces reçues. C'est peut-être une erreur de, par exemple, le soir, à la prière du soir, souvent, on pense toujours à faire un examen de conscience des péchés commis dans la journée. C'est très bien. Mais à mon avis, ça ne suffit pas. Je pense que c'est encore beaucoup plus utile pour nous de faire un examen de conscience de toutes les grâces reçues dans la journée. C'est vrai qu'il faut demander pardon, mon Dieu, des péchés commis dans la journée. Je pense qu'il faut aussi demander pardon, mon Dieu, des grâces reçues qui n'ont pas été suffisamment utilisées. Donc j'ai reçu telle et telle grâce, j'ai reçu tant de grâces pendant cette journée, qu'est-ce que j'en ai fait ? On peut se dire que si le voisin avait reçu autant de grâces que j'en ai reçu moi-même aujourd'hui, il serait en fin de journée bien plus 5 mois. Donc il faut personnaliser la passion. La passion, ce n'est pas simplement quelque chose qui s'est passé dans le passé, on n'en parle plus, mais c'est quelque chose de très actuel. Alors je vais reprendre un peu certains de ces textes. Vous voyez, donc là, le prophète Jérémie donc, en parle, et puis ensuite, les pères de l'Église vont commenter là-dessus. Donc, il dit bien, donc, les deux mots que nous avons commis, dit Jérémie, je reprends un peu ce texte, c'est très important, on a abandonné notre Seigneur Jésus-Christ, premier crime, et on a remplacé, en fait, notre Seigneur Jésus-Christ par des faux dieux. Et c'est ce qu'il dit là. Tu as dit, je ne servirai pas. Donc c'est double crime. Le double crime, c'est pas simplement d'avoir abandonné notre Seigneur, c'est un premier crime. Le deuxième crime, qui est encore bien plus grave, c'est d'avoir remplacé notre Seigneur Jésus-Christ par quelqu'un qui n'avait pas la divinité, un faux Dieu. Et péché mortel, c'est ça. Chaque fois qu'on commet un péché mortel, d'un certain côté, on renouvelle un péché d'idolâtrie. C'est-à-dire, je mets le bon Dieu dehors, et par la même porte que notre Seigneur Jésus-Christ vient d'utiliser pour quitter mon âme, je fais rentrer quelque chose de créé par Dieu. Rappelez-vous, presque tous suivez les exercices Saint-Ignace, vous connaissez le début des exercices, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que dit Saint-Ignace au début des exercices de Saint-Ignace ? L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. D'où il suit qu'il doit utiliser toutes les créatures qui sont autour de lui, autant que ces créatures l'aident à atteindre la fin pour laquelle il a été créé, mais qu'il doit se couper de ces créatures si ces créatures sont pour lui un obstacle. Donc qu'est-ce que j'ai fait de l'usage des créatures pendant ma journée ? Qu'est-ce que j'ai fait de l'usage des créatures que le bon Dieu m'avait octroyé pendant toute la durée du carême ? Et souvent, quand on fait un peu cet examen de conscience, on se rend compte qu'on a été tout à fait infidèle à beaucoup de grâces et que les grâces reçues ne correspondent pas à ce que j'ai donné, moi, en réponse à ces grâces. Et là, encore une fois, il me semble qu'il faut faire très attention à un danger très grand, c'est de vouloir toujours se comparer aux autres. On le voit tout le temps. Ah mais moi j'ai fait pénitence. Certes j'aurais pu faire plus pénitence, mais par rapport au voisin j'ai fait plus pénitence que le voisin. Donc c'est quand même pas si mal que ça parce que j'ai fait plus pénitence que lui. Alors, rappelez-vous, ce qui est absolument essentiel à comprendre, c'est que chacun est différent. Hein. Donc Dieu ne demande pas les mêmes choses à tout le monde. Rappelez-vous cette image très belle qui est utilisée par Sainte Thérèse David de l'Enfant Jésus et qui explique bien la chose. Elle compare chaque âme à un verre. Et donc, imaginez deux verres. Donc, quelqu'un qui a un petit verre, un petit verre qui a un petit verre à liqueur, quelqu'un qui a un grand verre, un grand pichet à bière grand comme ça. Qu'est-ce que demande le bon Dieu pour chacun d'entre nous ? Il demande que l'âme que nous avons soit remplie des grâces qu'il nous a préparées. D'accord ? Donc, si ce petit verre a une petite âme et que l'âme est remplie de toutes les grâces que le bon Dieu a préparées pour cette âme, qu'on a accepté ces grâces, qu'on a travaillé ces grâces, qu'on les a utilisées pour nous, le bon Dieu, nous aurons la récompense qu'on a méritée. Il ne faut pas se dire, bon, moi j'ai celle d'une âme beaucoup plus grande, mais alors ici il y a par exemple un centilitre de grâce, bon, moi j'ai un centilitre de grâce ici, bon, c'est pareil. Hein. Donc j'aurai la même récompense que celui-là. Non, parce que celui qui a une petite âme, il a rempli son devoir d'état, pas celui-là. Pourquoi ? Celui-là, il y a plein de choses qui manquent. Vous voyez ? Il ne faut pas se dire le voisin, il a jeûné une fois pour le vendredi saint, puis un point c'est tout. Moi, je jeûne tous les jours. Maintenant, attendez, dites donc, vous vous épuisez de grâce. Combien de fois on entend ça là par la tradition ? Ah, mais oui, les gens de la fraternité Saint-Bélius, vous comprenez, ils jeûnent simplement le mercredi des saints, le vendredi saint. Moi, j'ai jeûné tous les jours. Mais attendez, est-ce que vous avez plus reçu ? Moi, reçu que vous avez reçu bien plus qu'eux. Parce qu'eux, on les a roulés, on les roule dans la farine depuis combien d'années ? Vous savez, nous savons. Et donc, puisque nous savons, nous avons à rendre beaucoup plus ce bon Dieu. Mais je crois qu'il faut faire attention à ces choses-là. N'oubliez pas que le jour de notre jugement, chaque âme sera jugée individuellement. On ne sera pas jugé en comparaison avec les autres. Ce n'est pas un barème identique pour tout le monde. Le barème dépend du degré de connaissance qu'on a d'une chose. Une fois qu'on a compris ça, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être après bien expliquées. Hein. Alors, voyons un petit peu certains de ces textes. Je n'ai pas le temps encore une fois de tout expliquer. Je vais prendre ce que j'ai fait, c'est qu'en lisant les textes donc, qui correspondent au Père de l'Église, qui explique l'évangile de chaque jour. C'est-à-dire qu'il y a chaque jour de carême, il y a un évangile propre, puisqu'il y a une messe propre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un peu, j'ai lu les commentaires donc, qu'on dit au bréviaire pour chaque jour, je suis obligé de le faire en tant que prêtre, j'ai une obligation, c'est peine de péché grave, de dire mon bréviaire tous les jours. Donc pour préparer mon bréviaire, parce que les textes de l'histoire de l'Église en latin, des pères de l'Église en latin, ne sont pas toujours très faciles à lire, à comprendre, donc je les lis d'abord en français. Ce que j'ai fait en même temps, j'ai souligné les parties qui me plaisent, et puis je vais vous les redonner tout simplement. Une autre chose qu'il faut bien comprendre, ça m'a frappé hier dans la procession des rameaux. On voit très bien que dans la liturgie des rameaux, il y a deux évangiles. C'est très curieux, c'est pratiquement le seul cas. Il y a deux évangiles au cours de la messe. Je ne parle pas de l'évangile de fin de messe. Et puisqu'il y a déjà deux évangiles pendant le dimanche des rameaux, c'est la raison pour laquelle, en fin du dimanche des rameaux, il n'y a pas de dernier évangile. Le dernier évangile saute. Pourquoi ? Parce qu'il y en a déjà eu deux. Et c'est très intéressant, ça m'a beaucoup frappé cette fois-ci, ça ne m'avait jamais frappé avant. Comme quoi on peut toujours découvrir des choses. Mais une chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a deux évangiles dans la procession, dans le dimanche des rameaux. Le premier évangile est juste avant la procession des rameaux, après la bénédiction. Bénis les rameaux, puis ensuite il y a un évangile. C'est l'évangile de la joie, l'évangile de la ville de Jérusalem qui accueille notre Seigneur. Donc on fait une grande fête, on coupe les branches d'arbres, on coupe les palmes, on met tout ça sur le chemin d'accès de notre Seigneur Jésus-Christ, on met même ses vêtements sur le sol pour faire comme un cortège d'honneur à notre Seigneur. Notre Seigneur arrive, il chevauche un petit âne, et puis il fait une entrée triomphale dans la ville de Jérusalem, et tout le monde applaudit, et tout le monde chante, et tout le monde se félicite de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir notre Seigneur dans ses murs, etc. Et on dit aux Hosanna, fils de David, très bien. Et pour bien rappeler une chose très importante, c'est que les mêmes personnes qui sont au jour des rameaux en train d'accueillir avec joie notre Seigneur Jésus-Christ seront les mêmes personnes qui seront au pied du balcon de Ponce Pilate le vendredi saint en train de hurler et qu'il soit crucifié. Eh bien, l'Église a choisi un deuxième évangile. Le deuxième évangile, c'est la Passion. Donc, vous avez, si vous voulez, cette espèce de balance. Donc, d'une part, la joie de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive le dimanche des rameaux, qui est accueilli comme Christ roi, très bien. Mais le même jour, au même moment, en fait, quelques minutes plus tard, on va lire la Passion, chanter la Passion. Donc l'histoire de l'apostasie de l'humanité, littéralement, qui, au lieu de recevoir son maître, eh bien, le va le crucifier. Et ça, c'est, encore une fois, il faut faire très attention. Il ne faut pas dire, ah, mais c'est ce qu'ont fait les Juifs avant. C'est ce qu'on fait nous. C'est ce qu'on a fait. Vous savez, à chaque fois qu'on commet une faute grave, qu'est-ce qu'on dit au bon Dieu ? On dit en parlant du bon Dieu qu'il soit crucifié, c'est la même chose. Il faut comprendre ces choses-là. Ce n'est pas simplement quelque chose du passé. Alors, je vais vous donner ici quelques textes. Donc voilà par exemple un texte de saint Augustin qui est utilisé tout à fait au début comme introduction pour le mercredi des cendres. Donc, l'évangile vient d'annoncer la nécessité du jeûne. Donc, on parle du jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne vous montrez pas triste comme les hypocrites. Et voilà ce que nous donne l'Église comme méditation. Il est évident que ces préceptes donc, du jeûne tendent à diriger toute notre intention vers les joies intérieures, de peur que, cherchant au dehors notre récompense, nous ne venions à nous conformer au monde et à perdre la promesse d'une félicité d'autant plus solide, d'autant plus sûre qu'elle est plus intime. Promesse en vue de laquelle Dieu nous a choisis pour devenir conformes à l'image de son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on veut pouvoir profiter des joies intérieures, il faut nous couper de l'esprit du monde. On ne peut pas à la fois prétendre avoir la porte du paradis qui nous est ouverte et en même temps jouir des choses de ce monde, c'est impossible. Hein ? Et après, ça va être réexpliqué encore un peu mieux. Celui donc, dit saint Augustin, qui cherche à briller par un soin immodéré de son corps et qui met un excès de luxe dans ses vêtements, dans les autres choses à son usage, est convaincu par ce seul fait d'être partisan des pompes du siècle. Il ne trompera personne sous une menteuse apparence de sainteté. Quant à celui qui, faisant profession de vie chrétienne, attire sur lui les regards du public par sa négligence, sa malpropreté, et cela avec intention et sans y être réduit par la nécessité, l'ensemble de sa conduite prouvera qu'il agit de la sorte, ou par mépris d'un luxe superflu, ou par quelques motifs d'ostentation. Vous les reconnaîtrez leurs fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand obstacle à la sanctification personnelle, qu'on jeûne ou qu'on jeûne pas d'ailleurs, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. À partir du moment où on a cette vertu d'humilité, eh bien, le jeûne va prendre sa valeur. Si on n'a pas la vertu d'humilité, au jeûne, il n'y a rien du tout. Rappelez-vous le pharisien publicain, donc le pharisien de l'évangile, qui arrive devant le sanctuaire et qui dit, moi, je ne suis pas comme les autres hommes, moi, j'ai jeûné, moi, j'ai donné la dîme de tout ce que je possède aux pauvres, etc. Et puis, au fond de l'église, vous avez un pauvre publicain qui n'ose même pas lever les yeux et qui dit au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé votre enfant, pardonnez-moi parce que je suis un pauvre pécheur. Notre Seigneur va expliquer, le premier n'est pas pardonné parce qu'il était plein d'orgueil, le deuxième est pardonné. Et donc, qu'est-ce qu'il faut demander? Il faut demander au bon Dieu que le jeûne soit d'abord un jeûne intérieur. On a trop tendance, ça encore c'est tout à fait typique du monde moderne, on a trop tendance à considérer le jeûne comme quelque chose de purement matériel. Voilà. Et en fait, le jeûne, c'est d'abord dans l'esprit des pères de l'Église, le jeûne, c'est d'abord un jeûne spirituel. Ce n'est pas simplement perdre du poids ou faire pénitence physiquement parlant en mangeant moins. C'est jeûner, c'est à détruire en soi la volonté propre. Donc le jeûne, c'est le symbole de la destruction de la volonté propre. Mais pas que les pères disaient toujours qu'il y a trois grandes pénitences. Les pères en parlent beaucoup plus que nous. C'est des choses qui sont un peu perdues aujourd'hui, c'est bien dommage. Les pères parlaient toujours des trois grandes pénitences. Le jeûne, l'aumône, la prière. Pourquoi le jeûne, l'aumône et la prière? Bien, parce que tout simplement, chacune de ces pénitences vont correspondre aux trois concupiscences. Une des concupiscences. Donc il y a les trois grandes pénitences, le jeûne, l'aumône et la prière. Bien, tous les pères d'Église disent la même chose. Le jeûne, c'est une réparation, c'est pour nous aider à vaincre la concupiscence de la chair. Il y a toutes les tentations d'impureté. C'est qu'il y a trois concupiscences, la chair. Ensuite, les yeux, c'est l'aumône, concupiscence des yeux. Donc, je donne une partie de mon bien personnel, le bien superflu, pour justement rattraper les péchés provoqués par la concupiscence des yeux. Et la prière, c'est la concupiscence de l'orgueil. Et si on n'a pas compris ça, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si on coupe les prières qu'on fait, le jeûne qu'on fait au cours du carême et le monde qu'on peut donner aux pauvres, aux gens qui sont dans la nécessité, tout ça, ça ne vaut absolument rien si on ne garde pas l'esprit de l'Église. Vous pouvez avoir donné la moitié de vos biens, vous pouvez avoir mangé trois patates pourries pendant tout le carême, et vous pouvez avoir donné des millions d'euros, mais si vous n'avez pas mortifié la chair, les yeux, l'orgueil, ça sert à quoi? Rien. L'hypocrisie pure et simple. C'est ça l'esprit d'Église. L'esprit d'Église, c'est nous faire comprendre, attention, c'est pas simplement un jeûne extérieur, une aumône extérieure, une prière extérieure, c'est le jeûne intérieur, c'est-à-dire la mortification de la volonté propre. Mortifier la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil, c'est ce qu'on appelle la mortification de la volonté propre. Le plus grand ennemi de notre salut, c'est la volonté propre. Et c'est le texte que je vous ai cité tout à l'heure, à savoir que on répète, quand on oublie avant, on oublie de mortifier sa volonté propre, eh bien, on répète la parole du démon, à savoir, je ne servirai pas. Dès les temps anciens, disait le prophète Jérémie, je répète le texte. Je donne le texte complet, il est là. Ta malice t'accusera, ton éloignement de moi te gourmandera. Sache et vois combien il est mal et amer d'avoir abandonné le Seigneur ton Dieu, de n'avoir plus ma crainte auprès de toi, dit le Seigneur Dieu des armées. Dès les temps anciens, tu as brisé mon joug, tu as rompu mes liens et tu as dit, je ne servirai pas. Je t'avais planté comme une vigne choisie, comme un plant franc. Comment donc es-tu devenu pour moi un plant bâtard aux vignes étrangères? J'attendais de toi de pouvoir faire récolter depuis ta vigne une vendange très importante, et au lieu de récolter des bons raisins qui vont me donner un bon vin, ben je récolte des petits grappillons de rien du tout, tout amer, avec lesquels je vais rien pouvoir faire. Voyez. Donc il faut juger, si vous voulez, son carême, non pas en fonction de la quantité mathématique de jeûne qu'on a fait, mais beaucoup plus avec la quantité de dans quelle mesure j'ai brisé ma volonté propre. Et pour ça, moi, j'ai connu des gens qui faisaient le carême, ça m'a toujours horripilé ce truc-là. Alors, pour le petit déjeuner le matin, ils avaient une balance et puis ils pesaient leur pain au gramme près, littéralement, pour être sûr de ne pas dépasser. Bon, et puis à côté, tranquillement, pendant la journée, ils manquaient tranquillement à la charité de façon invraisemblable contre le prochain. Vous savez à quoi leur jeûne? Rien du tout. Vous voyez? Non, c'est ça qu'il faut comprendre, oui. Donc, qu'est-ce que demande Saint Augustin dès le début? Il faut aller chercher les joies intérieures. Hein, de peur que, dit-il, cherchant en dehors notre récompense, nous venions à nous conformer au monde. Donc, ne pas chercher la récompense, si vous voulez, du jeûne dans les choses matérielles, mais la récompense dans les choses spirituelles. Mais n'oublions pas que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du bon Dieu. Et on n'est pas créé à l'image et à la ressemblance du bon Dieu par notre corps, on est créé à l'image et à la ressemblance du bon Dieu par notre esprit, par notre âme. Alors j'avance un peu pour vous citer d'autres textes des pères de l'Église. Je n'ai pas le temps encore une fois de tout vous donner, mais il y en a plusieurs qui sont splendides. Il y en a encore un là. Donc, les pères de l'Église expliquent, hein, c'est un texte de Saint Augustin, encore surtout Saint Augustin qui est cité, qui est tout certainement le père de l'Église le plus cité dans les commentaires de l'Évangile du jour dans le bréviaire. Eh bien, ils expliquent bien que quand on s'approche de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il faut s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ en augmentant notre foi. Il donne comme exemple le centurion. Un centurion, ça c'est l'Évangile déjà du jeudi après les cendres. Un centurion s'approche de notre Seigneur, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur gît paralytique dans ma maison, il souffre violemment. » Et voilà la réflexion de Saint Augustin. Jésus ayant fait de la foi du centurion par laquelle on s'approche véritablement de lui, ce magnifique éloge, je n'ai point trouvé une si grande foi dans Israël. L'évangéliste a voulu dire non sans raison qu'à raison de cette vertu, le centurion s'était plus approché du Christ que ceux qu'il avait chargé de présenter sa requête. Et qu'est-ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ? Il nous demande que la pénitence que nous faisons nous aide à nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez, en gros, on peut traduire ça d'une autre façon toute simple. Il faudrait pouvoir dire, est-ce que faire cet examen de conscience, est-ce qu'à la fin du carême, j'aime un peu plus notre Seigneur Jésus-Christ qu'au début du carême? Il ne faut pas se dire, bon, en fin de carême, ma balance indique 10 kilos en moins de brassage, j'ai fait un bon carême. Non, ça va être ça. Est-ce que votre degré d'amour, c'est voilà pour moi aussi, est-ce que notre degré d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ en fin de carême dépasse celui que j'avais en début de carême? Et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé. Je me rappelle une fois, peut-être déjà dit à certains d'entre vous, je ne me rappelle plus, c'était un prêtre que je connaissais bien qui fêtait ses 30 ans de sacerdoce. Et donc la paroisse avait organisé toute une fête pour lui. Et puis, donc on avait fait une grande messe solennelle, et puis le matin, puis après il y a eu un grand banquet, on avait fait des cadeaux aux prêtres, etc. Bon, c'était très bien. Et puis après, tous ceux qui voulaient s'approcher du micro pour dire quelque chose aux prêtres, alors pouvaient le faire. Alors évidemment, tous les fidèles se sont succédés au micro, reconnaissant les bienfaits extraordinaires d'avoir un tel prêtre, c'était magnifique, et merci pour tout ce que vous avez donné, comme son héros d'avoir un prêtre aussi saint, etc., etc. Puis au bout de je sais pas combien de palabres comme ça, il y a un petit garçon de 5 ans qui demande à parler. Et alors on lui donne le micro, c'est ce qu'il a dit à 5 ans. Hein. Il dit, monsieur l'abbé, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez plus le bon Dieu maintenant qu'à 30 ans? Le prêtre,
Mais bon, ce petit garçon a tout compris.
Parce que finalement, tout ce qu'un prêtre peut faire en 30 ou 35 ans de sacerdoce, ben ça vaut rien s'il n'y a pas augmenté l'amour du bon Dieu. C'est pareil pour nous, pour le carême. Donc, encore une fois, le carême que nous avons tous fait, on arrive en fin de carême, là, ne se mesure pas en quantité de kilos perdus, de graisse superflue perdue pendant le carême à cause du jeûne qu'on a fait, mais se mesure beaucoup plus en quantité spirituelle, c'est-à-dire combien de grâce, est-ce que j'ai augmenté en moi la grâce du bon Dieu pendant ce temps de carême? Sinon, ben, tout ce que je fais, ça vaut absolument rien. Hein. Oui, là, il y a beaucoup des oraisons aussi. C'est très beau, ça, d'utiliser aussi. Vous savez que pour chaque jour de carême, il y a deux oraisons. Il y en a trois, mais il y a même une oraison qui se rajoute après, qu'on appelle l'oraison Humilité Capita Vestra Deo. À la fin de la messe, on rajoute une oraison d'humiliation en penchant la tête. Mais voilà, il y a une oraison, et certaines des oraisons sont magnifiques pour le temps du carême. On pourrait prêcher une retraite simplement avec les oraisons du carême. Ô Dieu, que le péché offense et que la pénitence apaise. Ayez égard dans votre clémence, prière de votre peuple suppliant, et daignez détourner les fléaux de votre colère que nous avons mérités par nos péchés. Vous voyez, ça explique bien l'esprit qui doit être nôtre. Le bon Dieu veut détourner les fléaux de sa colère de nos péchés à cause des choses que nous avons commises et pour lesquelles nous méritons justement d'être punis par le bon Dieu. Mais le bon Dieu, qu'est-ce qu'il demande? Il demande un degré d'amour augmenté. C'est tout ce qu'il fait. Oui, le reste, je dirais, c'est de la bouillie pour chat, littéralement. Regardez par exemple cette Marie-Madeleine. Cette Marie-Madeleine qui s'approche de notre Seigneur. Bon, c'était une femme publique, une pécheresse. Tout le monde savait qu'elle était une pécheresse. Et puis, elle est convertie en servant Notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait au début. Elle entend Notre Seigneur Jésus-Christ prêcher. Pour la première fois, elle est bouleversée. Elle voit Notre Seigneur Vierge Marie, il y a tradition. Notre Seigneur Vierge Marie lui dit, je ne peux pas vous pardonner vos péchés, je n'ai pas ce pouvoir. Allez voir mon fils. Donc, elle lui explique où Notre Seigneur Jésus-Christ est. Il est dans la maison de Simon le pharisien, en train de manger. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle oublie tout le reste. Elle rentre et elle va directement au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est même pas introduite, elle ne frappe même pas à la porte. En plus de ça, à l'époque, c'était la coutume, les hommes et les femmes mangeaient dans deux salles à manger différentes. Elle va directement au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous croyez qu'elle va commencer sa longue liste de péchés? Rien, pas un mot. Elle pleure, elle casse, elle va même briser un verre à la tasse d'albâtre pour arroser les pieds de notre Seigneur d'un parfum très précieux. Et elle pleure et elle essuie les larmes sur les pieds de notre Seigneur et le parfum avec sa chevelure. Elle ne dit pas un mot. Et les pharisiens sont scandalisés en disant, mais qui est celui-là? S'il était vraiment le Fils de Dieu, s'il était vraiment un prophète, il saurait que cette femme qui le touche est une pécheresse publique. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur? Est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ va poser des questions en disant, combien de fois tu l'as fait? Avec quelle personne? Qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Quels sont tes péchés? Rien. Allez en paix. Vos péchés sont pardonnés. Allez et ne péchez plus. C'est tout. Et du jour au lendemain, elle est devenue sainte. Elle a arrêté de pécher immédiatement. C'est exactement ce que nous demande notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est ce qu'il nous demande. C'est pour ça qu'il ne faut pas, il faut absolument pas constamment revenir sur les péchés du passé, parce que lorsque le bon Dieu pardonne les péchés du passé, ils sont pardonnés, ils sont oubliés, on n'en parle plus. Et qu'est-ce que va dire notre Seigneur, justement, aux pharisiens qui sont scandalisés, qui ne comprennent pas? Ce Seigneur a cette phrase magnifique, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Et donc c'est la question qu'il faut se poser en fin de carême, est-ce que j'ai plus d'amour à l'égard du bon Dieu qu'au début de ce carême? Pas seulement est-ce que j'ai fait plus pénitence, la pénitence qui n'est pas associée à un degré de charité important ne vaut rien. Encore une fois, c'est de la bouillie pour chat, ça ne vaut rien du tout. Ce qui manque, l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est le degré d'amour. C'est ça, François de Sales qui dit que une grande œuvre faite avec un baril de volonté propre vaut beaucoup moins qu'une toute petite œuvre faite avec une cuillère à soupe ou une cuillère à café même de volonté divine en nous. Est-ce que j'étais capable d'oublier ma volonté propre et d'introduire dans mon âme, à la place de ma volonté propre, d'introduire notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ sait qu'on va avoir du mal parce qu'on a une espèce de répulsion naturelle à faire pénitence. On n'aime pas faire pénitence. On n'aime pas faire pénitence, surtout quand personne ne le voit. Eh bien, qu'est-ce qu'il va nous donner? C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il nous donne comme exemple, justement, au début du carême, l'Église qui a choisi ses évangiles et beaucoup de soins. L'Église va nous donner les disciples qui rament sur la barque, sur le lac de Génézareth, et qui ont beaucoup de mal. Parce qu'il fut soir, la barque se trouvait au milieu de la terre, et Jésus seul était à terre. Et voilà le commentaire d'un autre père de l'Église, Saint Bède le Vénérable. La grande peine que les disciples ont à ramer, et le vent qui leur est contraire, désigne les travaux et les affections diverses de la Sainte Église. Car ce n'est pas, dit-il, sans raison, enfin, je vais dire le texte complet parce qu'il est très beau, parmi les flots que soulève contre elle le monde, son ennemi, et les tempêtes qui excitent le souffle des esprits impurs, l'Église s'efforce de parvenir au repos de la patrie céleste comme au port assuré du rivage. Ce n'est pas sans raison qu'il est dit en cet endroit que la barque était au milieu de la mer et Jésus seul à terre, car l'Église est parfois non seulement affligée, mais même accablée par les persécutions que les gentils lui font subir, au point qu'elle semblerait, si cela était possible, avoir été délaissée temporairement par son Rédempteur. Ça, c'est Saint Bède le Vénérable. Il y a combien? Il y a Saint Bède, c'était quand? Au 6e siècle, hein? C'est tard que ça, c'est avant ça, je crois. Je crois que c'est là, c'est 700, 800, des choses comme ça. Eh bien, il disait ça il y a quoi, il y a 12 siècles, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Et c'est exactement ça. L'Église est parfois non seulement affligée, mais même accablée par la persécution que les gentils lui font subir, au point qu'elle semblerait, si cela était possible, d'avoir été délaissée temporairement par son Rédempteur. Donc on a un peu l'impression que le bon Dieu nous a... C'est vrai, humainement parlant, si on regarde un peu humainement parlant ce qui se passe dans l'Église actuellement, on pourrait se dire, ben, mais qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu, quoi? Il nous a complètement abandonné. Mais c'est un délaissement qui est d'abord apparent, et deuxièmement, c'est un délaissement qui est temporaire. Bien comprendre ça. Vous voyez? Et voilà ce que dit Saint Bède qui explique ça. Ce qui se fait dire à l'Église qu'elle se trouve au milieu des flots et des tempêtes de ses épreuves, c'est le cas actuellement, et qu'elle implore par ses cris et ses gémissements le secours divin. Pourquoi, Seigneur, vous êtes-vous retiré de loin? Et avez-vous détourné de moi vos regards au temps du besoin dans la tribulation? Vous voyez? Alors, Saint Bède va donner la solution. L'Évangile, dit-il, encore expressément en cet endroit, que le Seigneur vit que ses disciples se fatiguaient à ramer. Quoiqu'il fût lui-même sur terre, il les vit travaillant sur la mer. Car bien qu'il paraisse différé pour le moment d'envoyer du secours à ceux qui sont dans la tribulation, notre Seigneur ne laisse pas néanmoins de les fortifier par un regard secret de sa miséricorde, de peur qu'ils ne viennent à défaillir dans leurs épreuves. Quelquefois même, il les délivre de leur adversité par un secours manifeste, comme s'ils marchaient sur les flots et apaisant les vagues. Oui, donc notre Seigneur est sur le rivage, et puis de ce regard, il encourage les rameurs, qui ont bien du mal parce que le vent est contraire, parce que les vagues sont contre la barque, et ils ont peur de périr. Donc il les encourage du regard, il encourage de la voix. Et s'il voit que c'est vraiment urgent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va carrément aller au devant de la barque. Le marché sur les eaux peut venir aider la barque. Et c'est tout le but de du carême. Il y a dans ces commentaires des pères là, qui sont en français, il y a des commentaires extraordinaires aussi, des petites notes très bonnes de Don Gréa. Don Gréa c'était un restaurateur en France, chanoine régulier de Saint-Augustin. C'était un auteur très sûr. Et là, il y a des notes magnifiques, soit des pères de l'Église, hein, soit de lui-même. Et voilà ce qu'il dit sur le carême. C'est en ce dimanche que commence la quarantaine de la pénitence. Ce saint temps comprend en effet 40 jours, si l'on s'arrête au jeudi saint, qui est le jour de l'absolution. Car par une vraie pénitence, l'homme parvient spirituellement au banquet de l'agneau. Ce chiffre nous rappelle les 40 ans passés par les Israélites dans le désert avant de parvenir dans la terre promise sous la conduite de Jésus, c'est-à-dire Josué. Les 40 générations que compte Saint Matthieu, le jeûne d'Élie, celui de Moïse, celui de notre Seigneur. Donc nous ne jeûnons pas le dimanche, même en carême. Saint Grégoire a ordonné donc de jeûner 4 jours de la semaine précédente, que l'on ajoute aux 36 autres qui sont la dîme de l'année pour compléter le nombre de 40 jours de jeûne. Dès le début de ce temps si précieux, qui doit nous préparer à honorer l'anniversaire de la Passion du Sauveur, les âmes pieuses trouveront un véritable profit à s'unir d'esprit et de cœur aux souffrances de leur divin chef, dans la récitation des différentes heures de l'office. Et comme les pères, dans l'esprit d'Église, c'est tout à fait ça. Donc, il va reprendre les différentes parties du bréviaire du prêtre. Pendant matine, donc c'est l'office de la nuit. On le contemplera dans son agonie, sa sueur de sang. Pendant les lots, c'est l'office du matin, principe c'est 3 heures du matin, on le verra lié par les soldats et renié par Pierre. À l'heure de prime, 6 heures du matin, nous le montre couvert de crachats et accablé d'outrage. À l'heure de tierce, c'est 9 heures du matin, qu'il fut condamné à mort, puis chargé de sa croix. À l'heure de sexe, c'est midi, qu'il fut crucifié. À l'heure de nonne, 3 heures de l'après-midi, qu'il mourut et qu'on lui ouvrit le côté. À Vêpes, 6 heures du soir, nous honorons sa déposition et accomplis, vers 9 heures le soir, son ensevelissement. Cette manière de méditer la passion était l'une des pratiques des plus chères au bienheureux Saint Curé d'Ars, et son origine remonte au premier père de l'Église. Et c'est comme ça qu'il faut méditer, encore une fois, la passion. Pas simplement voir des choses passées, mais comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement, nous demande d'utiliser le temps du carême pour augmenter en nous l'amour du bon Dieu. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller à la chapelle et puis on propose d'avoir tous les soirs un chapelet médité. Donc j'ai oublié de vous le dire pour aujourd'hui, donc les mardis, mercredis, donc on fera la même chose. Donc mardi, il y aura une petite conférence ici à 8h et suivi un commentaire, un chapelet médité devant le Saint-Sacrement. Donc il n'y aura pas de chapelet à 6h, puisqu'on méditera le soir, au moins pour mardi, mercredi. J'ai oublié de vous le dire pour aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'ai dit, votre chapelet, ça en fera un plus. Et donc, on va aller maintenant devant le Saint-Sacrement. Donc, mon frère Cyril, vous pouvez allumer les bougies, s'il vous plaît. Prépare l'encens. Et puis, on va simplement faire un chapelet, le mystère douloureux du rosaire, en les méditant un petit peu devant le Saint-Sacrement. Allez directement à la chapelle, s'il vous plaît.